Quel cirque? D'Hélène Joseph. Troisième prix.
Jamais elle n'avait vu une chose pareille. Une brigade d'agents du contre-espionnage avait débarqué la veille et cerné les caravanes, le chapiteau et même les cages des animaux de la ménagerie. Tout avait été inspecté de fond en comble, les identités contrôlées. Et pourtant, ils étaient toujours là. Les gens se regardaient en chien de faïence. Deux représentations avaient dû être annulées à cause de la tension provoquée par l'omniprésence des intrus. Et ma mère, qui s'occupait de la gestion du cirque, commençait à s'inquiéter du manque à gagner. Comme d'habitude, quand ça allait mal, elle s'en prit à mon père.
« Diego, tu devrais faire quelque chose. Tu es le directeur, tout de même !»«
Mais ma bibiche, que veux-tu que je fasse? Ils ne m'ont même pas dit ce qu'ils cherchaient. »
Il n'y a pas de bibiche qui tienne. Je me doutais depuis un moment que tu allais nous attirer des embêtements avec ta folie des grandeurs internationales. Des artistes venus, soi-disant, des quatre coins du monde. Parlons-en! L'Américain John Cassidy, par exemple. Un drôle de loustique. Cette manie qu'il a d'attraper au lasso tout ce qui passe à sa portée. Il commence à m'énerver beaucoup de monde et sa blague risque de mal se terminer.
Voyons, Irène, tu exagères. Tu vois tout en noir. Tu devrais, au contraire, être fière de notre petite entreprise. Ce n'est peut-être pas le plus grand chapiteau du monde. Mais si on remplit les gradins dans toutes les villes où nous nous présentons, c'est en partie grâce à nos dernières recrues. Tu n'aimes pas Jean Dupont, alias John Cassidy, parce qu'il est un peu farceur, je le conçois. L'important, c'est qu'il vient du Colorado. Ça nous fait une sacrée publicité. Bon, d'accord, du Colorado, de Rustrel dans le Luberon. Mais ça en jette, non? Regarde cette affiche. Le ceinturon en cuir, les éperons, le Stetson, tout y est.
Et cette ivrogne de Boris,
reprit ma mère dont l'irritation monta d'un cran.
Et jongle avec des bouteilles de vodka, raconte en roulant les airs qu'il était la plus grande vedette du cirque de Moscou et se vante d'être né à côté du Kremlin. En réalité, c'est une fripouille du Kremlin Bicêtre. Et je jurerai qu'il n'avait pas dépassé les frontières du Val-de-Marne avant que tu lui signes son premier contrat. Chaque fois qu'il lance ses couteaux, je tremble qu'il n'estropie sa partenaire. Qui est aussi, je te le rappelle, celle de monsieur Rabindranath, le magicien hindou. Celui-là, il est vieux et négligent. Il n'entretient même plus son matériel. Un de ses jours, son caisson rouillé restera coincé. Il coupera son équipière en deux pour de bon. Et en public! Par-dessus le marché!
Mais Irène, ma chérie, ne t'emporte pas, tu te fais du mal. Monsieur Rabindranath, tu me concéderas au moins cela, est un vrai hindou. Certes, il s'est exercé au premier tour de passe-passe de manière pas très honorable quand il était pickpocket dans le métro. Mais il était jeune et c'était pour lui la seule façon de survivre. Tu ne voudrais pas qu'un pauvre petit immigré hindou, qui est peut-être arrivé en France caché au fond d'une armoire Ikea, se laisse, en plus, mourir de faim.
Diego, j'essaie de me calmer, mais je suis encore rouge de colère à cause des ennuis que tes protégés nous attirent. Assez de balivernes! Veux-tu que je te dise ce que tu as fait de notre cirque ambulant? Un repère d'hurluberlu! Une cour des miracles! Quel cirque, mais quel cirque!
On ne savait jamais si ma mère parlait au sens propre ou au sens figuré quand elle s'emportait ainsi. Mon père s'efforçait de ramener le calme à la table familiale, et moi, pendant ce temps, je faisais mon possible pour me faire oublier, le nez dans mon assiette. Intarissable, elle poursuivit.
Évidemment, pour toi, rien n'est jamais grave. À t'entendre, on dirait que rien n'a d'importance. Et puis, j'ai d'autres soucis. Il faut qu'on en parle. Riri, tu y penses, quelquefois, à l'avenir de Riri ?
J'avais pressenti depuis un moment que cette douloureuse question n'allait pas tarder à revenir sur le tapis. Riri, c'est moi. Fils unique de Monsieur Loyal, directeur du Cirque International Alternatif, et d'une ancienne jongleuse antipodiste ayant abandonné son numéro à ma naissance. Mais les arts circassiens ne sont hélas pas ma tasse de thé. J'ai le vertige, deux mains gauches, peur des animaux. Je suis allergique aux poils et je me suis cassé le bras en tombant d'un ballon sur lequel on avait essayé de me faire marcher. Un enfant de la balle ratée. J'ai beau être né le 25 décembre, je suis pas un cadeau. C'est du moins ce que disent ironiquement les méchantes langues quand mes parents ont le dos tourné. Bien sûr, je jouis d'une certaine indulgence parce que je suis le fils du patron. Mais à 10 ans, je sens déjà qu'on attendait mieux de moi dans les milieux des saltimbanques.
Riri, ne fais pas cette tête-là et dépêche-toi de finir ton cassoulet. Je t'ai préparé un gâteau de riz au raisin comme tu les aimes.
Irène, ton cassoulet était excellent. Je ne sais pas ce que tu avais mis dedans, mais tu t'es surpassée. Il ne reste plus le moindre haricot.
Chaque fois que ça chauffait, mon père multipliait les compliments pour apaiser ma mère. Et en général, ça marchait. Instinctivement, j'avais intégré sa tactique et en savourant mon dessert, je rajoutais « quel bon gâteau, c'est mon préféré. Merci, maman. »
« Brave petit bonhomme !»
dit mon père en me caressant affectueusement les cheveux.
« Comment veux-tu qu'il tienne en équilibre avec toutes les bonnes choses que tu lui prépares ? Allez, Riri, va jouer. Il faut que je parle à ta mère. Et surtout, ne t'éloigne pas trop. Avec ces gens qui traînent dehors, on ne sait jamais. »
Cette remarque ramena ma mère à ses inquiétudes.
« Mais enfin, qu'est-ce qu'ils cherchent ici ? Ces gens de la police secrète ? » Qu'est-ce que le contre-espionnage vient faire au milieu de notre cirque ?
Avant que sa colère ne reparte, je me levai péniblement de table à cause de mon ventre alourdi, m'emparai du cartable glissé sous mon lit et abandonnai mes parents à leur supputation barbouzarde. Je vais chez Madame Sou. Elle doit m'expliquer un exercice de calcul, j'ai pas bien compris. Madame Sou était la seule qui eut véritablement une stature internationale parmi tous les artistes qui se produisaient sous notre chapiteau. Transfuge du cirque de Pékin, c'était une contorsionniste qui avait voyagé à travers le monde entier. Elle avait la capacité de plier son corps dans tous les sens, au point qu'on ne savait plus où étaient les jambes et où étaient les bras. Grâce à sa petite taille et à sa souplesse hors du commun, elle était capable de se glisser dans une valise ou de se cacher dans un minuscule recoin où l'on n'aurait pas eu l'idée de la chercher. Elle possédait aussi bien d'autres qualités et bien d'autres talents. C'était une femme raffinée et instruite qui m'aidait patiemment pour mes devoirs. Car, je dois l'avouer, je ne brillais pas plus dans le domaine scolaire que sur les pistes aux étoiles. Ma mère la respectait et lui savait gré de s'occuper de moi comme un ange gardien. Ce jour-là, elle m'accueillit avec empressement dans sa caravane aux meubles laqués, ornés de dragons fulminants, de personnages armés de sabres impressionnants. Les lanternes de papier rouge suspendues au plafond et l'odeur d'encens flottant dans cet espace confiné achevaient de créer une atmosphère mystérieuse de temple extrême-oriental. Madame Su cultivait dans ce décor la nostalgie de son pays natal, dont elle aimait me raconter les merveilles, malgré sa pauvreté. Elle m'installa à une petite table et je sortis mes affaires d'écolier. Nous étions tous les deux assez tendus. Et c'était à qui aborderait en premier le sujet qui nous préoccupait. Madame Sou me parlait, mais je n'entendais rien. Penchée sur mon cahier, j'étais incapable de me concentrer. Voyant que j'avais la tête ailleurs et qu'il était inutile d'insister, elle me proposa une partie de Mikado, jeu auquel elle m'avait initié et où je me débrouillais pas trop mal. Ce qui, malheureusement, ne sert à rien dans la vie. On n'a jamais vu un champion de Mikado milliardaire. Le sort m'accorda le privilège d'ouvrir le jeu et je commençai à lever mécaniquement les baguettes les plus faciles à attraper. 2 mandarins, 1 samouraï, 15 points. J'attaquais fort. Encore un coup, tout en douceur. Pas de chance. Voilà le bonce qui s'écroule au milieu des coulis et je perds la main. À quelle heure passe le train ? Demandai-je à Madame Sou.
À 15h18, on a largement le temps de finir la partie.
Comme dans la plupart des petites villes, la mairie nous avait octroyé un terrain vague, loin du centre de la cité et près de la voie ferrée. Chaque fois qu'un train passait, le vacarme était assourdissant et tout tremblait dans les caravanes. Alors le Mikado. Nous faisions semblant d'être absorbés par le jeu, mais quand il m'arrivait de lever les yeux sur Madame Sou, je voyais ses prunelles brillantes qui cherchaient mon regard. Je sentais qu'elle brûlait de me poser la question qui la taraudait. Et moi, j'avais hâte de me débarrasser du poids que j'avais sur la conscience et l'estomac. Enfin, sans me brusquer, elle m'interrogea.
Tu les as bien cachés ?
Ben, c'est-à-dire que je les avais bien cachés dans le boîtier du CD de Tino Rossi que ma grand-mère m'a offert pour mon anniversaire. J'avais viré les disques parce que j'aime pas, je supporte pas les chants de Noël. Et je les avais mis dedans.
C'est une bonne idée. Et alors ?
Alors, juste à ce moment-là, ma mère a cassé le boîtier du CD de Dario Moreno, qu'elle écoute en faisant le ménage.
Je ne vois pas le rapport.
Elle m'a dit, Riri, passe donc le disque de Tino Rossi, chante Noël, que tu n'écoutes jamais. On va récupérer le boîtier pour mon Dario Moreno.
Tu as eu le temps de les changer de place au moins.
Oui, et non.
Riri, sois franc, explique-toi. C'est oui ou c'est non ? Qu'est-ce que tu en as fait ? Parle, Riri.
Ma mère avait fait gonfler un paquet de haricots secs du supermarché pour le cassoulet qu'on a mangé à midi. Et pendant qu'elle allait, elle avait le dos tourné, ben, je les ai mis avec.
Tu es en train de me dire que tu as mélangé les haricots tarbés sélectionnés que je t'avais confiés avec de vulgaires faillots, comme vous dites ici ? J'aurais pris tous ces risques pour rien.
Vous m'aviez recommandé surtout que personne ne les voie. Alors, quand ma mère a failli les découvrir, j'ai eu peur. Mais ne craignez rien, Madame Sou. Vous ne serez pas inquiétée. On a tout mangé, plus une trace. Au lieu d'être soulagée que je lui ai sauvé la mise, Madame Sou eut l'air consternée. Nous restâmes ainsi, chacun perdu dans ses pensées, les yeux fixés sur les baguettes éparpillées devant nous. Toute sa vie, Madame Sou avait mangé du riz, comme ses parents avant elle. Elle s'était vue revenir au pays en héroïne d'une nouvelle révolution culturelle, remplaçant la culture traditionnelle du riz par celle du haricot tarbé plus nourrissant. Et pas n'importe quel haricot tarbé, la dernière variété sélectionnée par l'INRA. Résistante au cussou. Plus besoin de pesticides pour décimer le charançon insidieux et vorace. Elle avait subtilisé une dizaine de ses semences inestimables à la coopérative agricole de Tarbes qu'elle avait visitée à l'occasion d'une représentation donnée dans cette ville. Le directeur avait dû s'en apercevoir et porter plainte contre X en demandant la plus grande discrétion. Il ne voulait pas que le secret s'ébruite avant la mise sur le marché de son haricot dernier cri, qui lui assurerait une position dominante à l'exportation. Il espérait écraser par surprise les concurrents du Coco Pimpol jusqu'à la majotte de Vendée, en passant par le gros soisson. Le haricot est chose fort petite, mais pèse d'un poids non négligeable dans la balance commerciale française. Voilà pourquoi les services de la surveillance du territoire traquaient les gens du cirque qui avaient stationné durant plusieurs jours près de l'Institut de recherche au moment précis où quelques échantillons de cette découverte agronomique capitale avaient été subrepticement dérobés. Fidèles à la consigne, ils gardaient un silence obstiné sur l'objet de leurs investigations. Les rêves de Madame Sou venaient de s'effondrer. La poignée de haricots pour lesquels elle avait pris tant de risques ne croîtrait pas, ni ne se multiplierait pour donner de mérifiques récoltes. Il n'y aurait pas de paquet de haricots nankins, elle comptait les rebaptiser du nom de sa ville natale, circulant à travers la Chine avec son effigie. Le cassoulet au canard laqué ne détrônerait pas le cassoulet de confit de canard. La guerre des chefs n'aurait pas lieu. Adieu son retour en grâce. elle resterait une petite contorsionniste condamnée à l'exil, que la gloire avait frôlée de son aile pour la balayer impitoyablement dans l'anonymat d'un 1,5 milliard de ses compatriotes. Un soupir lui échappa. José relevait la tête. Madame Soupe plissa ses yeux malicieux et m'adressa un sourire à la fois désabusé et rassurant.
Riri, j'aurais dû me douter qu'avec un complice tel que toi, l'exfiltration de ces 10 jolis grains nacrés, plus précieux pour moi que des perles rares, ne se ferait pas sans anicroche. Mais on ne va pas en faire tout un plat. Après tout, ce n'est pas la fin des haricots, et demain sera un autre jour.